au chapitre 1er, verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage héritier du grand roi, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux, comme les cieux devraient nous être chers, à nous qui n'avons pas d'espoir de demeurer toujours ici-bas, comme les choses du ciel devraient occuper nos cœurs, comme nous devrions être familier avec cette maison du Père vers laquelle nous nous rendons. Et tout en nous y rendant, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Mais est-ce que nous y croyons? Que pour ce dernier trajet jusqu'à la maison du Père, nous sommes gardés et nous sommes toujours dans la crainte. Nous sommes gardés par quoi? Par la puissance de Dieu. Ce ne sont pas des textes pétrineux, ce ne sont pas des textes de Pierre simplement, ça, ce sont des paroles de Dieu. C'est vrai que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui l'a fait s'asseoir à la droite de Dieu. Et c'est cette puissance-là qui nous garde par la foi. Nous sommes gardés par la foi pour le salut, oui, parce que nous ne sommes sauvés qu'en espérance. Nous sommes gardés pour le salut. Nous sommes gardés par la foi. Et ce salut va être révélé dans les derniers temps. La révélation du salut, ce que c'est vraiment le plein salut. Quand nous serons rendus en un instant, semblables à Jésus. Mais déjà maintenant, dans la course, nous pouvons connaître cette transformation à son image. Et bien que le Seigneur, à l'ouverture de ce deuxième demi-camp, parle à notre intelligence, qui ne doit pas être obscurcie, parle à nos consciences, qui, je l'espère, demeure sensible à l'action de la parole et parle aussi à nos cœurs qui doivent être touchés par le grand amour de Dieu dont nous venons de chanter quelque chose. Mais bien aimé, il y a une semaine, nous ouvrions le 18e camp Mahanaïm, ici à Cedar Lodge, qui est en fait le 20e camp Mahanaïm, puisque les deux autres ont eu lieu en Israël. Et nous souhaitions à tous ceux qui se trouvaient là à l'ouverture samedi dernier, un accueil réellement du Seigneur. Et nous leur rappelions ce texte de l'Écriture, de Chroniques 16, verset 9. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, où le Seigneur promène ses regards sur toute la terre, pour se montrer fort à l'égard de ceux qui ont un cœur tout entier à lui. Et je me demande combien parmi ceux qui ont participé à ce premier demi-camp ont éprouvé la réalité de ces paroles. Combien ont rencontré ce regard? Nous émettions le vœu de pouvoir encouragés par la nuée de témoins qui nous entoure, ces héros de la foi qui ont éprouvé ce que voulait dire un cœur entier pour le Seigneur et qui ont éprouvé toute cette force dans leur vie, toute cette puissance au travers de 1000 épreuves, de 1000 combats qui sont rappelés dans le chapitre 11 des Hébreux. Nous évoquions cette nuée de témoins et nous vous disions qu'ils nous entourent, nous ne sommes pas tout seuls à camper ici. Nous sommes environnés par tous ces croyants qui ont déjà quitté cette terre, mais qui pour Dieu vivent, car il est dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais que pour lui, tous sont vivants. Bien encouragé de savoir que ce camp est entouré par cette nuée de témoins. Nous demandions à Dieu que nos regards, comme le dit cet épître aux Hébreux, soient fixés sur Jésus, que nous puissions nous décharger ici de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement, pour que libérés, nous puissions courir la course qui est devant nous, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et je disais, mon émotion, en voyant au milieu de nous notre fils Jean-Bernard et sa femme Annie, me souvenant de ce début du camp, d'une certaine année où je devais parler de ce thème, le Dieu de l'impossible. Et le jour où nous commencions ce camp, nous recevions la nouvelle que notre fils était aux portes de la mort, ayant eu un terrible accident, qui risquait de laisser notre Annie, son mari, et nos trois petits-enfants sans père. Lorsque nos liens sont très forts dans la famille, vous pouvez bien comprendre combien les parents sont touchés par un événement pareil. Et ce qui se passe dans notre cœur, où dois-je être? Ici, avec ces compteurs, ou bien est-ce que je dois me faire remplacer d'une manière ou d'une autre? Je ne me pense pas du tout indispensable. Du reste, de toute façon, je passe. Nous ne faisons que passer. J'aurais passé parmi vous, puis on disparaît. Pour l'instant, nous ne pensons pas qu'il y aura de nouveaux camps Mahanaïm. Alors, nous nous donnons pleinement à ce camp. Que devais-je faire? Et le Seigneur m'a fait comprendre que je devais rester à mon poste et que je ne devais pas simplement parler aux âmes du Dieu de l'impossible, mais y croire. Et croire que Dieu pouvait tout encore pour mon fils. Je ne pouvais pas lui dicter mon désir ou donner des conseils à Dieu. On ne lui donne pas des conseils, mais lui dire fais ce qui est le meilleur pour lui. Mais manifeste que tu es là. Et voilà, le miracle, il était là. Cette année, sans séquelles, rétabli par la puissance de Dieu, pouvant aller même cette semaine dernière sur le toit du monde. Mais voilà, nous ne pensions pas quand même qu'il y aurait pendant le camp une nouvelle épreuve. Mais nous étions dans le livre de Job. Et c'est notre ami qui doit nous quitter demain, parce que il y a peu de jours, nous avons reçu la nouvelle que sa mère avait été recueillie par le Seigneur. Elle va rejoindre ses sœurs à Nice à l'occasion des funérailles de sa mère qui auront lieu mardi à Nice. Alors que notre thème cette année est « Connais-toi toi-même » à la lumière du livre de Job, nous constatons que Dieu permet que les siens passent par l'épreuve. Et je vous lis ce texte de la première épître de Pierre. Vous tressaillez d'allégresse. Quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé de diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre ajoute, vous l'aimez sans l'avoir vu. Est-ce vrai? Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui et vous tressaillez d'une joie, d'une allégresse indicible et glorieux. En remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Le salut de nos âmes est là comme prix de notre foi, d'une foi vivante, d'une foi éprouvée, d'une foi qui n'est pas morte, mais qui est réelle. Eh bien, en ouvrant ce soir ce deuxième demi-camp qui prolonge notre première semaine, le Seigneur m'a mis à cœur de souligner ces versets. Jeudi soir, 23 juillet, qui est en quelque sorte l'ouverture du deuxième camp ou la continuation du premier, nous avons pensé qu'il serait peut-être bon de vous donner un résumé des 21 chapitres que nous avons étudiés dans la semaine qui se termine les 21 premiers chapitres de ce livre de Job que nous nous sommes proposés de couvrir en entier. C'était un peu un défi, comment en si peu de temps survoler 42 chapitres et essayer de comprendre un peu l'essentiel de chaque un de ces verset, mais nous comptons sur l'aide du Seigneur. Et alors, évidemment, pour ceux qui viennent d'arriver, eh bien, je leur recommanderais, s'ils ont un peu de temps, de lire quand même pour eux-mêmes ces 21 chapitres, afin de pouvoir mieux comprendre dès demain soir les études que nous ferons et qui débuteront par le discours, le troisième et dernier discours d'un des amis de Job, et qui s'appelait Eliphaz. Alors, je voudrais ce soir simplement vous brosser un petit tableau de ce que nous avons vu. Mais je dirais que le livre de Job est donc composé de 42 chapitres et qu'il contient 1076 versets et que selon le décompte qui a été fait par les Massorètes, ce groupe de docteurs juifs qui a assuré la garde de la transmission du texte original de la Bible grâce notamment à la comptabilité des versets. Ce travail a été accompli dans le cours de plusieurs siècles, du 6e au 10e siècle, et ils étaient extrêmement précis. Et ils disent que Job comprend, selon eux, 8 divisions, donc 1070 versets, que le milieu du livre de Job se trouve justement dans le chapitre que nous allons étudier demain, et c'est le verset 16 du chapitre 22e, où il est dit « Ils ont été anéantis avant le temps ». C'est le milieu du livre de Job. Et de qui est-il question ? Anéantis ou emportés, enlevés, saisis, balayés, de qui est-il question ? Eh bien, Eliphaz parle des hommes injustes, pervers, des hommes de néant, des hommes vains, des hommes partisans du mal, et au fond, il sous-entend que Job est parmi ces hommes et qu'il est menacé, lui aussi, d'être anéanti avant le temps. Eh bien, Eliphaz, comme nous le verrons demain, se trompait totalement parce que Job n'a pas été anéanti. À la suite de toutes ces épreuves, combien de temps a-t-il vécu encore? Nous le verrons dans notre dernière étude, vendredi prochain. Il a vécu combien de temps? 140 ans. Ses jours n'ont nullement été abrégés, et s'il a vécu 140 ans après toutes ces épreuves, ça veut dire qu'il avait plus de 200 ans, de sorte que nous pouvons bien comprendre que Job vivait en quel temps? Au temps des patriarches. Parce que, depuis Moïse, le nombre des années des hommes était fixé à 70 ans, psaume 90, et à cause de la grande vigueur de certains, ça pouvait aller jusqu'à 80 ans. Il y a eu des exceptions pour Moïse qui est arrivé à 120 ans, mais en tout cas, l'âge qu'avait Job est une confirmation de ce que nous pouvons trouver ailleurs que Job, le temps où il vivait, c'était à l'époque patriarcale, donc avant que la loi ait été donnée à Moïse. Donc Job était un homme qui vivait au pays des hommes sans Bible, et nous l'avons dit, il n'avait pas le livre de Job pour comprendre le pourquoi de ces épreuves. Nous avons le livre de Job, nous savons bien des choses que Job ignorait totalement. Il s'est trouvé donc au sein de l'épreuve dans une nuit complète, dans l'obscurité la plus totale, quant au pourquoi ces choses lui arrivaient. Alors, ce livre que nous allons, dont nous allons poursuivre l'étude, commence par un prologue de deux chapitres qui sont écrits en prose. Et il se termine par un autre chapitre en prose qui est l'épilogue, le chapitre 42. Et entre ces deux chapitres, tout le texte est en vers, en poésie. J'étais un peu navré d'apprendre que on avait compris que j'avais parlé du langage vers de Job. Et j'avais pas orthographié le mot, hein. J'avais pas dit vers, le langage vers de Job. Vous voyez comment on peut être induit en erreur. Celui qui a écrit cette histoire, elle a composé en vers. Les discours de Job et de ses amis, nous les trouvons donc en vers. Les vers S. Et je voudrais encore vous dire que si nous avons pris un texte commun, c'est pour que nous puissions d'une façon un peu intelligente, suivre ensemble cette étude en ayant le même texte sous les yeux. Vous pouvez prendre vos Bibles habituelles et comparer simplement. Et là, je souligne qu'il y a beaucoup de sens dans chacun de ces versets. Nous ne pouvons pas tous vous les donner, puisque selon les rabbins juifs, il y a dans l'écriture, pour chaque verset, 70 sens différents. Pas contradictoires, mais on peut trouver 70 sens différents à un seul verset. De sorte que vous pouvez lire et relire la parole, vous y trouverez toujours un aspect nouveau. C'est là la richesse de l'écriture sainte. Je pense que vous avez tous en mémoire un peu cette histoire de Job, qui n'était pas un juif, c'était un sémite, bien sûr, descendant, semble-t-il, de Sem, descendant de Noé, mais il n'était pas donc descendant d'Abraham, semble-t-il, et en tout cas, il était un de ces hommes qui avait eu une connaissance, par la tradition orale, une connaissance des premiers événements qui sont racontés dans la Genèse au sujet de la création faite par Dieu de tous les êtres et de toutes choses, et aussi de la chute. Et la connaissance de Dieu avait été maintenue même dans ce temps-là où il n'y avait pas de loi. De sorte que le grand livre que Job avait pour connaître la loi naturelle et qui vient de Dieu, c'était la création. Et là, nous rejoignons ce que l'Épître aux Romains dit au chapitre 1er, que les païens mêmes sont inexcusables parce que la puissance de Dieu, sa sagesse se révèle dans les choses qu'il a faites. Et il suffit d'avoir des yeux pour contempler cette merveilleuse nature. Et nous l'avons chanté dans ce cantique qui nous a encore frappé hier soir et dont Jacques Torisson nous disait qu'il avait été, il avait entendu une personne chantait en Angleterre et que, à la suite de ce chant, eh bien, plusieurs cœurs s'étaient donnés au Seigneur parmi les étudiants. Oui, quand on entend un cantique dans le recueillement et quand on éprouve qu'il est chanté par quelqu'un qui croit ce qu'il exprime, eh bien, nous pouvons être bouleversés, nous pouvons être évangélisés. Il y a des cantiques qui nous transforment. On pourrait parler de beaucoup de gens qui, dans leur témoignage, nous disent qu'ils ont été sauvés par le chant d'un cantique. C'est vrai, cela. Mais alors, voyez comment nous devrions chanter. Et puis, c'est très juste, c'est très vrai. Il y a des moments où, quand on entend un cantique, eh bien, moi, je ne sais pas comment le Saint-Esprit, ou comment il vous touche, mais on a un certain frisson, il y en a de ce côté, il y en a de l'autre côté, il y en a de sur les... Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe à certains moments, et on éprouve vraiment cette imprégnation de l'Esprit Saint. Eh bien, je demande que pendant ces journées, et de plus en plus, nous entrions vraiment dans la louange qui libère, et que nous puissions connaître ce vrai bonheur que donne la parole de Dieu. Même si, en étudiant le livre de Job, nous nous sentons finalement très concernés à un point que nous disons, ben, ce chapitre, c'est mon chapitre, ce chapitre, c'est exactement mon histoire, je suis dans l'état qui a été dépeint dans ces textes, n'est-ce pas ? C'est cela, la rencontre avec le Seigneur. La parole de Dieu est vivante, on y rencontre quelqu'un. Et c'est cette personne que nous désirons découvrir. Alors, dans ce prologue, on apprend que Job était donc un homme qui avait une situation remarquable, un homme béni de Dieu, de son Créateur, et qui avait une vie de famille heureuse. Il était intègre, droit, il craignait Dieu, il s'écartait du mal. Donc, il avait une connaissance de ce qui s'était passé à la chute et il avait une conscience qui lui montrait ce que pouvait être le bien et comment il pouvait s'écarter du mal. C'est cela la vraie intelligence, dira-t-il dans un chapitre que nous allons étudier. La vraie intelligence, sa définition à Job, c'était de s'écarter du mal. Et puis, la crainte de Dieu, disait-il, c'est là la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la sagesse, et s'écarter du mal, c'est l'intelligence. Voilà les principes qu'avait Job. Alors, il avait une famille heureuse, et une nombreuse famille, c'est toujours une bénédiction. Il avait 7 fils et 3 filles, et il avait 11 500 têtes de bétail. Donc c'était un homme fort riche, parce que de ce temps-là, la fortune s'évaluait surtout par le bétail, le nombre d'animaux que l'on possédait. Il est dit qu'il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient, ce qui a fait penser, il y a d'autres versets, que Job était peut-être un roi dans ce fameux pays d'Ut qui se trouve en Arabie. Et il nous est raconté d'abord un peu dans ce prologue ce qu'était Job, mais aussi ce qu'il faisait quand ses fils se réunissaient à l'occasion d'un anniversaire de l'un d'eux. Ils invitaient leurs frères et leurs sœurs et ils faisaient un festin. Et Job avait toujours un peu peur que, à l'occasion de ces festins où l'on mange bien, où l'on boit bien, eh bien, que l'un ou l'autre de ses fils ait maudit Dieu dans son cœur. Et il pensait qu'il n'était pas à la gloire de Dieu. Donc, vous voyez à quel point il était sensible et il veillait à ce que rien ne puisse offenser Dieu dans la vie de ses enfants. Il se sentait encore responsable pour ses enfants. Et nous nous demandons aujourd'hui, 12 ans avant l'an 2000, combien de parents se sentent responsables, non seulement pour leurs enfants, mais aussi pour leurs petits-enfants et peut-être leurs arrière-petits-enfants. Eh bien, Job se sentait responsable. Mais c'est là, déjà, que nous avons vu la faille qu'il y avait dans la vie de Job. C'était un homme parfait, droit, craignant Dieu, sortant du mal. Il veillait sur les autres, sur ses enfants, et il est dit qu'il offrait un holocauste, ce qui nous montre aussi que dans quel temps il vivait. il n'y avait pas encore les sacrifices pour le péché, c'était le temps de l'Holocauste, comme au jour d'Abraham qui suivit, et l'Holocauste était entièrement brûlé pour Dieu. Et il en offrait pour chacun de ses fils, mais pas pour lui. Lui n'en avait pas besoin. Il était juste, parfait, droit, craignant Dieu et sortirant du mal. Et ce qu'il ignorait, c'est que s'il était si juste, si parfait, si droit, c'était uniquement par une grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ce qui manquait à Job, c'était la connaissance de la grâce. Que c'était uniquement par grâce qu'il était dans cette situation, parce que Dieu agissait en grâce pour lui. Mais là, comme nous avons pu nous en apercevoir dans toute cette semaine, Job se fiait au fond sur sa propre justice. Il se savait juste, il se savait intègre, et il se complaisait dans son intégrité. C'est pas pour le critiquer ou pour enlever quoi que ce soit à ce saint homme, mais il devient une figure de tout chrétien qui, sauvé par grâce, par la grâce de Dieu, devrait pouvoir recevoir ce témoignage de Dieu qu'il n'y en a pas, comme nous, les chrétiens, pour être intègres, droits et se retirer du mal. Parce que nous aussi, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nos bénédictions ne sont pas comme celles de Job, des bénédictions pour la terre, mais nous avons des bénédictions pour le ciel. Et Job devient une figure de ce qu'un chrétien authentique devrait être. Il est béni, mais tout en étant béni, eh bien, il a besoin de faire certaines expériences, il a besoin d'apprendre à se connaître lui-même et à ne jamais s'attribuer quelque chose qui pourtant ne vient que de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Car, comme nous le verrons spécialement dans cette deuxième semaine, eh bien, Job était tellement sûr de sa perfection qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi il était éprouvé. Et nous apprenons ensuite, dans le prologue, que dans le ciel, tout à coup, le voile du ciel nous est levé et nous voyons une grande séance dans le ciel qui réunit devant Dieu le Père tous les anges de Dieu qui sont des esprits administrateurs employés envers ceux qui doivent hériter du salut, nous dit l'Épître aux Hébreux. Les anges nous environnent. Je ne sais pas si vous croyez aux anges ou si vous n'y croyez pas. En tout cas, moi, j'y crois. Et je sais que nous avons leur aide, leur soutien dans une vie qui est déjà longue. Nous avons éprouvé de bien des manières cette présence angélique dans notre existence. Et puis, les petits-enfants, eh bien, le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, que leurs anges voient continuellement la face de leur Père qui est dans les cieux. Il y a une protection angélique au sujet des enfants, d'où est venue l'ange gardien. L'idée de l'ange gardien, elle a certainement une base biblique. Alors nous assistons à une de ces séances et nous apprenons à notre grand étonnement que Satan, et c'est là que, pour la première fois, nous le voyons, semble-t-il, dans ce rôle d'adversaire. Il est vraiment l'adversaire des desseins de Dieu et du plan de Dieu, mais en même temps, il est serviteur. Le diable, ce n'est pas comme dans la religion perse, le diable n'est pas un autre Dieu, le Dieu du mal, alors que Dieu, celui que nous révérons comme Dieu, serait le Dieu du bien. Il n'y a pas de dualisme. Le diable, Satan, est une créature de Dieu, et d'autres versets de l'Écriture nous apprennent qu'il était le chef des anges, Lucifer, un chérubin ouin, chapitre 28 d'Ézéchiel, comme aussi le chapitre 14 d'Ésaïe, dans lequel nous pouvons voir une certaine chute de cet ange. Et nous nous demandons justement quelle est l'origine du mal. Et on cherche toute espèce de doctrine, de philosophie au sujet de l'origine du mal. Eh bien, pour moi, c'est beaucoup plus simple que tout cela. Jésus nous a donné une réponse. L'origine du mal, il nous l'a montré dans le chapitre 8 de Jean, dans le cœur d'un être qu'il appelle le diable. Vous avez pour père le diable, c'est lui qui est le menteur et le meurtrier dès le commencement. Et nous pouvons comprendre par mais le chef aussi de tous les serviteurs. Et on s'est souvent demandé, mais pourquoi est-ce que Satan s'est opposé à Dieu? Pourquoi est-ce que l'ange s'est opposé à Dieu? N'est-ce pas quand Dieu a révélé son dessein de créer un être au bonheur duquel il allait travailler, qui serait l'homme, et que cet être, il le prédestinait à être semblable à l'image de son fils. Alors, si un être était créé, semblable à l'image de son fils, il se trouverait être plus élevé que lui-même, que Lucifer. D'où opposition du chef des anges et révolte. Il a voulu détrôner Dieu pour s'opposer à son plan et s'élever jusqu'à la montagne de Dieu. Et c'est alors qu'il a été rejeté, anéanti, mais pas totalement, puisque Dieu le laisse encore pour un temps. Mais je voudrais que vous puissiez bien comprendre que Satan est au service de Dieu et qu'il n'est pas le prince qui va régner sur l'enfer. Il n'a aucun règne, Satan. L'enfer, oui, a été créé pour le diable et ses anges. Il n'a pas été créé pour les hommes, mais pour le diable et ses anges. Et Satan ne sera pas le chef de l'enfer. Ceux qui seront en enfer, eh bien, ils seront avec Satan, mais il ne régnera sur aucun homme, puisque lui-même, à ce moment-là, adorera le Seigneur. Tous les êtres célestes, les êtres terrestres et les êtres infernaux, seront prosternés devant le Seigneur et tous reconnaîtront que le Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, mettez-vous bien cela dans le cœur que Satan n'est qu'une créature qui a des comptes à rendre et qui est limitée, et c'est lui-même qui nous l'apprend. Quand il se présente pour rendre des comptes à Dieu, eh bien, Dieu l'interpelle. D'où vient-il, Satan? Et c'est Satan qui va nous apprendre un tas de choses sur lui. Il dit de courir ça et là sur la terre et de nous promener. Donc Satan n'est ni omnipotent, ni omniscient, ni omniprésent. Il nous dit lui-même qu'il doit courir ça et là sur la terre. Eh bien oui, le monde, comme nous le savons par d'autres versets, le monde, il a usurpé le pouvoir. C'est l'homme qui devait régner sur le monde à cause de sa chute, parce qu'il a suivi le conseil de Satan. Eh bien, c'est Satan qui règne, qui est appelé le prince de ce monde, et l'homme est devenu esclave de Satan parce qu'il se laisse dominer par lui. Mais Dieu, dans son amour, a opéré une œuvre pour nous libérer de cette puissance de Satan, et nous pouvons croire que Satan est vaincu par l'œuvre que le Christ a opéré. Mais lui-même nous dit dans ce livre de Job, on apprend beaucoup de choses sur lui, vous pouvez faire toute une étude sur Satan, Et nous apprenons que donc, lui-même reconnaît qu'il n'est pas omniscient, pas omnipotent et pas omniprésent. Et il n'est pas omniscient parce qu'il se trompe complètement au sujet de ce qui va arriver à Job. Quand Dieu lui dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y en a pas un aussi parfait, droit, craignant Dieu et sortirant du mal. Eh bien, Satan est obligé d'admettre. Mais, ce qu'il met en avant, c'est que Job, au fond, sert Dieu par intérêt. C'est pas pour rien qu'il te sert, c'est donc par intérêt. Et si tu lui envoyais des épreuves, tu verrais bien qu'il te maudirait en face, parce que tu l'as environné d'une aide de protection. Alors, cela vous montre ce que Satan fait à votre sujet. Vous-même, en tant que croyant dans le Seigneur, vous êtes environné d'une protection, comme Job l'était. Pour vous, aujourd'hui aussi, croyez-le, vous êtes dans un cercle, vous êtes dans une entouré d'une haie de protection, de sorte que le diable ne peut vous atteindre qu'à travers la haie. Peut-être qu'il arrive à travers une haie à vous lancer une flèche, mais à l'intérieur de cette haie, il y a une seconde muraille, une troisième, une quatrième, je pourrais vous en parler, et vous êtes là, au centre de toutes ces forteresses. Le Seigneur, le bouclier de la foi, vous protège contre les dards enflammés du malin. Même si la flèche a percé la haie, elle peut s'arrêter sur le bouclier de la foi. La muraille de la bonté du Seigneur vous entoure aussi. Et puis il est dit, l'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Alors vous êtes au sein de ces quatre cercles. Prenez conscience de la protection, de l'efficacité de cette protection. Et alors, vous ne craindrez plus les attaques de Satan. Satan se trompe quand il pense pouvoir dire que vous allez tomber. Alors, Dieu relève le défi et puis il permet à Satan d'éprouver Job. Alors, vous voyez tout ce qui arrive, tous les événements qui arrivent, une succession d'épreuves. Vous connaissez quand même ce récit, je n'ai pas besoin d'allonger. Il a trois épreuves, il perd tous ses biens, par les Sabéens, par les Chaldéens, et puis par le feu du ciel, la foudre, et qui tombe sur ses brebis, de sorte qu'il perd ses biens, ses serviteurs, il en reste un dans chaque occasion, dans chaque malheur, pour venir raconter la chose à Job, et finalement, Job apprend cette terrible nouvelle que non seulement il a perdu ses biens, mais que dans un ouragan qui s'est abattu sur la maison où ses dix fils avec leur sœur festoyaient à l'occasion d'un anniversaire, c'est la catastrophe et ce sont les cercueils ou enfin les tuères de ces enfants qui sont là devant nos yeux. Ils sont tous morts. Est-ce que vous réalisez ce que ça peut être pour un père? Sa femme est avec lui. Cette femme qui a porté ses 10 enfants, ses 7 fils et ses 3 filles. Et maintenant, voilà, tout est fini. Eh bien, Job, contrairement à ce qu'on pouvait penser, au lieu de dresser un poing contre le ciel, il dit, l'Éternel avait donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Satan, donc, est vaincu. Mais Job n'est pas stoïque dans son épreuve. Il a déchiré ses vêtements. Dieu ne nous demande pas d'être stoïques dans nos épreuves. Nous pouvons pleurer, nous pouvons manifester que nous sommes déchirés. Elle dit, nul je suis sorti du sein maternel, nul je retournerai au sein de la terre. Et Job ne pécha point. Il n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Alors, deuxième étape, c'est le chapitre 2, où vous avez de nouveau le voile qui se lève, et puis Satan, qui se trouve dans la présence de Dieu. Et Dieu lui dit, alors Satan, d'où viens-tu? Et il se répète de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Et il lui dit, alors tu as considéré mon serviteur Job, hein? Tu m'as incité contre lui, et pourtant il reste ferme dans sa perfection. Et le diable ne peut pas dire le contraire. Il a constaté que, oui, il a perdu la première manche. Mais il dit, pont, tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sa vie. Et il dit, si tu l'éprouvais dans sa santé, eh bien, tu verrais qu'il te maudirait en face. Alors Dieu lui dit, eh bien, je te le laisse entre les mains, mais seulement tu ne toucheras pas à sa vie. Et le diable, toujours pressé de faire le mal, s'en va, et le pauvre Job est frappé subitement de cet ulcère malin qui, croyons-nous, semble être la lèpre noire, et son dénuement est si grand et sa douleur si vive, cette démangeaison qui le ronge est telle qu'il prend un tesson sur la terre et il se gratte. Et alors, l'épreuve qui est ajoutée à toutes celles-là, eh bien, c'est que sa femme, le diable emploie sa femme maintenant, il lui a laissé sa femme, qui aurait dû pouvoir l'encourager, puisque la femme est une aide pour l'homme, eh bien, elle l'incite à maudire Dieu et à mourir. Pourquoi est-ce que tu restes ferme dans ta perfection? Maudis Dieu et meurs. Et là encore, on voit combien Job est un homme droit et pieux et un bon mari. Il ne traite pas sa femme d'insensée. Il lui dit, tu parles comme parlerait une insensée. Et il l'exhorte. En lui disant, nous avons reçu de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. Donc, Job est sorti triomphant de ces épreuves. On en a compté 6 d'épreuves jusqu'à présent. Mais voilà où il succombe, c'est à la 7e de ces épreuves. C'est ses amis, 3 amis qui viennent de loin pour le consoler, et qui sont très sincères, très religieux, et qui sont venus dans de bons sentiments. Mais quand ils voient Job dans cette situation, eux aussi se posent des questions. D'abord, peut-être que leur silence pendant 7 jours et 7 nuits, leur silence vient de cette terrible impression de voir Job dans cet état. Ils ne trouvent rien à dire, ils sont suffoqués en quelque sorte, mais en même temps, n'avoir rien à dire à cet homme qui souffre, bien, c'est trop pour Job. Job n'arrive plus à accepter qu'on contemple sa misère. Et pendant ces 7 jours où ces hommes n'ont rien à lui dire, n'ont pas une parole d'encouragement, ce qui montre bien que ces hommes, tout en étant religieux, ne vivaient pas dans la présence de Dieu, parce que quand on vit dans la présence de Dieu, Dieu nous donne une parole. Dieu nous remplit de ses paroles aussi, pour donner une parole à celui qui est là. Eh bien, Job n'en peut plus, et c'est alors, et c'est le chapitre 3, et dès le chapitre 3, vous avez ces chapitres en vers, il éclate, et puis il maudit son jour. Et alors, il emploie des termes, il regrette donc le jour de sa naissance, il regrette la nuit où il a été conçu et il regrette d'être en vie et ce qu'il réclame, c'est la mort. C'est la mort. Il demande la mort. Tellement, il n'en peut plus. Puis il ne comprend pas pourquoi il est éprouvé de la sorte. Alors, en entendant les cris et la véhémence de Job, le plus vieux de ses amis, Eliphaz, qui est un sage, pense qu'alors il doit
commencer à lui parler. Et le drame, c'est que pendant ces 7 jours de silence, ils se sont fait des idées au sujet de Job. Eux ont essayé de trouver une réponse. Job, lui, il essayait de trouver le pourquoi il passait par cette épreuve, oui, mais il ne trouvait pas et il obscurcissait les desseins de Dieu en voulant comprendre. Il y a des épreuves que vous ne pouvez pas comprendre. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Et dès que vous voulez comprendre le pourquoi d'une de vos épreuves, vous êtes dans l'erreur et vous ne pouvez que obscurcir les desseins de Dieu. Faites confiance à Dieu. Je ne comprends pas, mais j'accepte. Et c'est là, c'est cette soumission qui doit caractériser l'enfant de Dieu. La soumission à sa volonté, sans comprendre. Comme Jésus a dit, non point ma volonté, mais la tienne. Il avait dit, oh, mais s'il était possible que cette coupe passe loin de moi. Mais il se relève en disant, non, non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, l'erreur de Job, c'était de vouloir comprendre. Alors, il était de plus en plus malheureux. Et comme il ne trouvait pas de péché en lui, il avait bonne conscience, il arrivait plus ou moins à douter de quoi? De la justice de Dieu. Il avait des pensées, au fond, qui n'étaient pas justes à l'égard de Dieu. Il se figurait que Dieu était contre lui. Alors il ne comprenait pas pourquoi que Dieu était contre lui. Tandis que ses 3 amis, et là nous abrégeons, mais vous pouvez reprendre ces discours, essayaient, eux, de prouver à Job que ce n'était pas possible qu'il n'ait pas de péché dans sa vie. Il y a certainement une faute que tu n'as pas confessée, que tu ne reconnais pas encore, pour qu'il t'arrive de telles choses. Parce que Dieu est tout-puissant, et puis il punit le méchant. Alors, eux, ils ont toujours l'impression que les épreuves de Job, eh bien, viennent de quelque chose qui n'est pas en ordre dans sa vie. Pourtant, ils ont commencé, Eliphaz, avec une certaine douceur, en disant à Job, mais tu sais, Job, nous savons très bien que tu as encouragé, que tu as été en bénédiction à beaucoup de personnes qui étaient affligées, et puis maintenant que c'est toi qui l'es, alors tu perds ta foi, tu perds ta confiance, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et voilà, on lui fait sentir qu'il n'a plus le même degré de spiritualité qu'autrefois. Mais c'est pas consolant quand vous êtes déjà dans l'épreuve. Hein. Quand on vient vous dire, moi je l'ai eu cette visite-là, on est venu me dire un jour, vous savez, que vous soyez encore opéré une fois, eh bien c'est pas à la gloire de Dieu. Bientôt, vous êtes déjà mal, et que oui, c'était peut-être la 15e opération, qu'on vient vous dire que c'est pas à la gloire de Dieu que je dois être opéré, eh bien, ça vous coule. Mais c'est des chrétiens qui viennent vous dire ça. C'est pas des païens, hein. Vous pouvez être sûr, hein. Puis des fois, c'est des proches. Alors, ça vous fait mal. Eh bien, il faut vivre ces choses-là. Alors, tu n'es pas un témoignage parce que tu es souffrant. Alors, c'est ce qu'on pouvait dire aussi à Paul, tu es une écharpe dans la chair. Ce n'est pas un témoignage. Tiens oui, ben, nous voudrions bien nous passer de certaines échardes. Hein. Paul avait dit au Seigneur s'il était possible. Il a prié 3 fois pour être libéré de cette écharde. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul pouvait se dire, mais si je n'avais pas cette écharde, je serais beaucoup plus fort et je pourrais davantage glorifier Dieu. Et Dieu lui dit, non, c'est dans cette faiblesse que tu peux me glorifier. Puis on peut se demander vraiment, pourquoi on a besoin d'une épreuve quand on a été ravi au 3e ciel? On doit être guéri vraiment de toutes les tentations, mais c'est justement le contraire. Plus vous êtes près du Seigneur, plus vous avez de révélations du Seigneur, plus vous êtes en danger de vous m'enorgueillir. Alors, pour que je ne m'enorgueillisse pas, il y a l'ange de Satan qui humilie l'apôtre Paul lui-même. Donc, vous voyez toute l'activité de Satan. Il y a comme un voile qui est levé sur l'activité de Satan. Alors, l'erreur de ses amis, que ce soit Eliphaz, et qui présente, lui, son expérience, et qu'il accrédite encore davantage pour se donner de l'autorité par des visions spéciales qu'il aurait eues, comme s'il avait une révélation tout à fait particulière de Dieu au sujet des épreuves. Alors, il essaye de consoler Job, mais il ne fait que l'enfoncer dans sa peine. Et nous avons vu qu'il ne faut pas essayer d'aller parler de nos expériences à des gens qui passent par l'épreuve, parce que ces expériences ne correspondent peut-être pas du tout à leur état, et c'est très dangereux. Eh bien, c'est ce que Eliphaz a voulu faire. Ça, c'est son premier discours. Et puis, il y a quand même donné des paroles encourageantes aussi. Alors, quand vous lisez, et c'est ce qui me frappe, beaucoup de gens connaissent certaines portions de Job, mais seulement les versets encourageants. Alors, voilà, en si détresse, il te délivrera, et dans cette, le mal ne t'atteindra pas. Et c'est vrai qu'Eliphaz, au fond, soulignait que Job avait eu si détresse et qu'il en avait été délivré, mais la septième, il ne savait pas que c'était lui. Et qui était la septième. C'était ses amis qui ont été employés, au fond, par Satan, pour essayer de couler Job. Les grands événements, les grandes détresses n'ont pas vaincu Job. Alors, le Seigneur permet que Satan emploie ses amis. Gardez-moi de mes amis, je me charge de mes ennemis. Hein. Là, il faut faire très attention. C'est souvent nos amis qui nous coulent, parce qu'ils ne savent pas que nous dire. Et alors, vous avez les réponses de Job. On l'accuse d'être un hypocrite. C'est déjà un peu ce qu'il ressent dans le discours du premier de ses amis, et qui s'appelle Eliphaz. Puis, il répond à Eliphaz, et il contredit Eliphaz par sa propre expérience aussi, et par ce que lui aussi a vu. Parce qu'Eliphaz, sa théorie, c'est « j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu ». C'est du « moi, je hein, », tout ce que j'ai vu, eh bien voilà, me fait conclure que. Et c'est cela qui est faux. Dieu est au-dessus de tout ce que nous avons pu voir. Et nous n'avons pas vu grand-chose, au fond. Et le discours de Bildad est dans la même veine. Il vient pour consoler Job, et au fond, il va encore essayer de lui donner une explication. Il va jusqu'à lui dire, si tes fils sont morts, hein, c'est parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Alors, quand vous entendez ça, un père me dit, mes fils, alors, mais qu'est-ce qu'ils auraient fait? Alors, il se pose un tas de questions. Donc, la douleur de Job est aggravée par le discours de ses amis de Bildad. Alors, forcément, s'il répond, lui, pour se justifier, au fond, ce que nous disions ce matin, les accusateurs, les amis de Job, en se faisant accusateurs, se font les acolytes de Satan. Satan est l'accusateur. Et si j'accuse, eh bien, je me mets du côté de Satan. Et ce que cela provoquait chez Job, qui était déjà tellement sûr de sa justice, il avait le besoin de se justifier de plus en plus. Ça faisait l'effet contraire. D'un côté, Job se justifiait, il se savait impeccable, et puis les autres l'accusaient de plus en plus. Alors, on arrive au chapitre 21, qui nous raconte donc tous ces discours. Il y a deux cycles, on a fait deux cycles de discours. Les discours d'Eliphaz, le premier, le second, les réponses de Job à Eliphaz, et puis les discours de Bildad, les réponses de Job à Bildad. Bildad, lui, il invoque la tradition, les pères, etc. Et il faut se souvenir de ce que nos pères ont dit, et c'est eux qui avaient la vraie sagesse. Et ils essayent de convaincre Job que s'il est dans la peine, c'est parce qu'il a péché. Alors il lui donne aussi le remède, confesse-toi, humilie-toi, et tu retrouveras la paix, etc. Et Job est de plus en plus malheureux, et cela nous faisait dire, arrivé à la fin du 21e chapitre, vous voyez, les positions sont toujours les mêmes, de sorte que à la fin du deuxième cycle, c'est en quelque sorte match nul. Job est toujours dans la peine, Et les amis ne l'ont pas convaincu. Et quand il leur dit qu'ils sont des consolateurs fâcheux, il a tout à fait raison. Alors, nous avons cherché, au travers de toutes ces pages, nous avons cherché une application pour nous. Comment consolons-nous les gens qui sont dans l'affliction? Quelle est notre attitude quand nous voyons quelqu'un dans la douleur, dans la peine? Est-ce que nous sommes semblables aux amis de Job, avec toute espèce d'arguments qui ne sont pas valables, que nous croyons être de Dieu et qui ne sont pas de Dieu? Voilà où nous arrivions au chapitre 21, à la fin du deuxième cycle d'entretien, de conférence en vers, et il n'y a pas de résultat. Demain, alors, nous verrons le dernier discours d'Eliphaz, et puis dans cette semaine, nous verrons comment on en arrive à ne plus savoir que dire. Les amis de Job arrivent au silence, et puis Job continue de monologuer tout seul, puis alors c'est là tout à coup qu'il y aura plus de lumière pour que vous puissiez comprendre au fond pourquoi Dieu a permis que Job passe par toutes ces épreuves. Dieu avait un but, et Dieu n'était pas contre Job, il était pour Job. C'était parce qu'il voulait le bénir, l'enrichir, l'amener plus loin. Alors, ce que je voudrais simplement souligner ce soir, pour nous tous, ne pensez plus un seul instant que Dieu est contre vous. Il est toujours pour vous. Et c'est définitif. C'est définitif. Quelle que soit l'épreuve que vous deviez traverser, Dieu est pour vous. Il n'est jamais contre vous. Il permet peut-être à Satan de vous éprouver, mais c'est toujours en vue de vous donner quelque chose de meilleur. Parce que si Job a perdu ses 11 500 têtes de bétail, Dieu les avait comptées et il lui en a rendu le double. Si Job a perdu ses 10 fils, ses 10 enfants, 7 fils et 3 filles, eh bien, le Seigneur lui en a donné le double, mais pas 20, hein, souvenez-vous bien de cela. Il lui en a donné encore 10 et 7 et 3. Pourquoi? Parce que les premiers existaient encore. Hein. Tandis que pour les animaux, c'est toujours le double. 3000, 6000, 500, 1000. N'est-ce pas? Quand c'est des animaux. Parce que les animaux, ils sont vraiment perdus. Ils n'existent plus. Tandis que pour les enfants, il n'y en a pas 20. Il existe toujours les 10. Comprenez-vous? C'est ça qui est merveilleux dans l'écriture. Dans le détail. C'est pourquoi on pourrait s'arrêter sur chaque mot, ce que nous ne pouvons pas faire. Bien, j'ai essayé un peu, peut-être maladroitement, sans doute ma faiblesse, mais enfin de vous amener, vous qui n'avez pas participé au camp, à pouvoir commencer demain l'étude du chapitre 22 qui est le troisième discours d'Eliphaz, le commencement du troisième cycle de discours. Hein. Et après, nous allons voir un quatrième personnage qui va entrer en scène et qui va préparer Job d'une façon assez extraordinaire à entendre la voix de Dieu, parce que ce Job qui crie au Seigneur, réponds-moi, montre-moi, eh bien, il ne reçoit pas de réponse, alors il est découragé, et puis Dieu avait une réponse. Mais vous verrez que cette réponse est toute différente de ce que nous pouvions attendre. Dieu ne répond à Job sur aucun des sujets sur lesquels il a été questionné, il lui répond aucun de ses sujets, aucune de ses demandes. Mais il lui pose des questions. Et devant ce Dieu qui lui pose des questions, Job s'effondre et peut dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Tandis que quand il était dans l'aisance, dans la richesse, il disait, l'œil qui me voyait. me rendait témoignage. Il était rempli de lui-même. Et tant que nous, comme chrétiens, nous sommes encore remplis de nous-mêmes, remplis de nos œuvres, remplis de nos béats, de nos bonnes actions, eh bien, nous ne pouvons pas connaître la plénitude du Saint-Esprit. Le Seigneur ne donne pas sa gloire à un autre. Il faut que nous arrivions à faire faillite. Et c'est ça le secret de tous les hommes de Dieu. Ils sont arrivés à reconnaître qu'en leur chair, il n'y avait rien de bon. Et c'est ce que Job a dû comprendre, que s'il avait pu traverser ces épreuves, c'était par la grâce de Dieu et non pas par sa propre force. Nous prions.
Dieu notre Père, nous voulons maintenant te demander que tu continues à nous enseigner par ta grâce. Et que le dessein que tu avais pour ce camp Mahanaïm 1988, tu l'accomplisses pour chaque participant. Et que nous puissions continuer à étudier ces textes, à en être remplis, à nous laisser interpeller, corriger, convaincre, parce que tu nous aimes. Et que nous ne doutions plus de ton amour, et que toute notre vie, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvions, soit une expression non seulement de notre soumission, mais de notre joie de te voir à l'œuvre dans nos vies, même quand tu nous brilles. Et fais-nous comprendre que si tu nous brilles, si tu nous humilies, c'est parce que tu veux nous élever plus haut. Tu ne résistes qu'aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux hommes. Donne-nous ce soir cette humilité qui accepte. Et prépare-nous demain à cette louange que nous voudrions t'offrir en étant réunis au nom du Seigneur et dans la communion de ton Église universelle. Pouvons vraiment être de ceux qui t'aiment, Seigneur Jésus, et qui peuvent te dire parce qu'ils t'aiment, viens.